Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, la RDC appelle à une stratégie commune sur le rôle central des pays des trois bassins forestiers tropicaux. C'est le président Félix Tshisekedi qui l'a dit hier samedi à Kintele, à Brazzaville, au sommet des trois bassins du Congo, de l'Amazonie et du Bornéo-Mekong. En Ituri, au moins 25 décès ont été notifiés en l'espace de 3 mois dans la zone de santé de Lopa, à environ 30 km au nord de la ville de Bounia, dans le territoire de Djougou. Ces chiffres sont avancés par les acteurs de la société civile qui alertent les autorités sur l'absence d'aide humanitaire dans cette région en proie à l'activisme des groupes armés. L'invité de ce journal est le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri. Marc Carnassoro parle de l'amélioration de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri grâce notamment aux opérations menées par les FARDC avec l'appui des forces de la MONUSCO. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Alain Goy assure la mise en onde et devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. La République démocratique du Congo appelle à une stratégie commune sur le rôle central des pays des trois bassins forestiers tropicaux. C'est le président Félix Tshisekedi qui l'a dit hier samedi à Kintele, à Brazzaville, au sommet des trois bassins du Congo, de l'Amazonie et du Bornéo-Mekong. Par ailleurs, il a rappelé que l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda par le M23 contribue aussi à détruire la biodiversité importante du parc de Virunga. Le chef de l'État congolais, co-organisateur de ce sommet, a souligné le rôle majeur qu'ambitionne de jouer la RDC par son potentiel environnemental, agricole et minier. On écoute Félix Tshisekedi dans ses propos recueillis par Alain Hirung.
Ce sommet vient à point nommé en ce qu'il nous permet de réfléchir à quelques semaines de la tenue de la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, prévue très bientôt aux Émirats Unis, de réfléchir sur des perspectives concrètes en vue de l'application effective de l'accord de Paris sur le climat, mais avant tout d'entrevoir la possibilité d'une stratégie commune visant à ressortir le rôle central joué par nos États dans la lutte contre les changements climatiques. En effet, bien que la grande messe sur le climat approche à grands pas, ce sommet, appelé communément de nos voeux, constitue en une opportunité, en même temps qu'en un défi inouï, au vu de cette caractéristique que nous avons en partage, celle d'abriter sur nos territoires respectifs les trois plus grands massifs forestiers tropicaux de notre planète.
L'évaluation de la filière industrielle des matières plastiques recyclables et des déchets plastiques qui causent l'insalubrité dans la ville de Kinshasa notamment a été évoquée au cours du Conseil des ministres de vendredi dernier. Le président de la République a fait le constat selon lequel cette filière, qui est une opportunité de création d'emplois, n'a pas encore vraiment démarré. Conséquence, les immondices jonchent sur le sol de toutes les communes de la ville de Kinshasa. On écoute un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres lu par Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement. Extrait proposé par Alain Hirung.
Si les déchets deviennent de matières premières rémunératrices, le président de la République a fait le constat que cette opportunité des déploiements d'une filière industrielle de recyclage de déchets de produits plastiques, source de création d'emplois rémunérés tant qualifiés que non qualifiés dans la capitale, n'a pas encore démarré de manière optimale, malgré la présence de quelques acteurs privés y opérant. Conséquence de cette situation, toutes les communes de la capitale subissent les spectacles dégradants et inadmissibles des déchets qui jonchent les rues, les caniveaux et les cours d'eau. En outre, la propension à générer un tonnage quotidien des déchets ménagers et industriels s'est accroissante du fait du développement socio-économique qu'enregistreront nos grandes agglomérations nationales en général et particulièrement la ville de Kinshasa. Cette situation constitue à la fois un défi de gouvernance et une opportunité économique. Le président de la République a invité le ministre de l'Industrie à faire un état des lieux de l'ensemble de la filière industrielle dans le recyclage de déchets de matières plastiques.
L'assainissement de Kinshasa passe par une gestion efficace des déchets. C'est dans ce cadre que la société turque Al-Bayrak a lancé vendredi dernier, sous la supervision de mon gouvernement, l'opération de collecte et d'évaluation de ceux-ci. C'est ce qu'écrit le gouverneur de la ville de Kinshasa sur son compte X. Zantini Ngobila précise que ceci résulte de sa détermination à résoudre ce problème de santé publique et environnementale, placé en priorité dans son mandat et pour lequel il s'était rendu d'abord en Guinée pour constater l'expérience de cette société sur place, puis à leur siège en Turquie. La sensibilisation de la population à cet égard est cruciale pour consolider ses efforts. J'en appelle aux Quinois de trier les déchets à la base, organiques et non organiques, de s'abstenir de jeter les ordures sur la voie publique et dans d'autres endroits inappropriés, souligne Zantini Ngobila. En Ituri, au moins 25 décès ont été notifiés en l'espace de 3 mois dans la zone de santé de Lopa, à environ 30 km au nord de la ville de Bounia, dans les territoires des Djougou. Ces chiffres sont avancés par les acteurs de la société civile qui alertent les autorités sur l'absence d'aide humanitaire dans cette région en proie à l'activisme des groupes armés. Des sources médicales indiquent que cette situation s'aggrave actuellement avec les problèmes de route qui ne facilitent pas le mouvement des véhicules des humanitaires dans cette région. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
La situation humanitaire reste préoccupante dans plusieurs localités dans le territoire des Djougou. Au moins 13 villages du groupement Loga ont été incendiés l'année dernière par des groupes armés. Plus de 3500 personnes se sont retrouvées sans abri et vivent dans des conditions difficiles dans cette zone, indiquent des sources locales. Certains passent nuit à l'extérieur sous des moustiquaires et d'autres dans des familles d'accueil. Selon la société civile locale, certains malades parcourent une distance d'au moins 20 km pour aller se faire soigner dans des structures sanitaires environnantes où ils sont encore exposés aux menaces d'hommes en armes. 25 décès sont notifiés dans la communauté depuis le mois d'août suite au manque de soins, indique Désiré Magunga. Parmi eux figurent 3 femmes enceintes, 12 enfants, 8 personnes de troisième âge, ainsi que d'autres malades qui meurent suite aux hémorragies. Contacté, un médecin dans la zone dit que cette situation s'aggrave actuellement à cause de l'impraticabilité de la route nationale numéro 27 qui réduit sensiblement les mouvements des malades ainsi que des véhicules des humanitaires. Des voix s'élèvent pour demander au gouvernement de réparer cette route afin de venir en aide à cette couche de la population en détresse. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, bonne nouvelle pour les femmes enceintes et les malades souffrant des problèmes respiratoires ainsi que les hémorragies du type digestif. L'hôpital Notre-Dame de l'Espérance vient d'être doté des équipements médicaux, des hautes factures pour les soins intensifs et la réanimation afin d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients. D'après le médecin directeur de ce centre hospitalier, les malades qui devraient se rendre à Kinshasa ou à l'étranger seront désormais pris en charge localement. Dr Florent Chitenga, médecin directeur de l'hôpital Notre-Dame de l'Espérance, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Nous avons reçu plusieurs équipements diversifiés pour plusieurs services. Et des équipements qui n'existent pas partout. Par exemple, pour la fibroscopie respiratoire ou la bronchoscopie, c'est une première en Boujimaï. L'échographie 3D, 4D, c'est également une première. Pour les malades qui devraient voyager pour les hémorragies du tube digestif, les hémorragies où il y a les varices qui se rupturent, l'occasion pour voyager sera réduite, sauf si quelqu'un veut voyager par lui-même. Ce sont des choses que nous pouvons déjà réaliser sur place. Et avec cette échographie, c'est aussi une bonne nouvelle pour les cas des endométrioses. Ça nous permettra de faire ce qu'on appelle les hydrosonographies. Donc ce sont des échographies qu'on fait pour voir toutes les pathologies qui sont dans l'utérus. C'est un matériel qui va vraiment nous aider pour le bien-être de notre population. Nous avons reçu les moniteurs des signes vitaux, pratiquement tout pour suivre un malade en soins intensifs de façon adéquate. Nous avons aussi un matériel en urgence qu'on pourrait même mettre dans une ambulance pour lever les urgences rapidement. Les cardio-moniteurs, défibrillateurs, les matériels de nébulisation. Maintenant, là, nous venons d'avoir un endoscope qui est aussi multisystème.
Au Nord Kivu, les différentes confessions religieuses font un appel à la paix et au renforcement du dialogue entre les hommes des religions différentes. C'est à l'occasion d'une journée de réflexion initiée hier samedi à Goma par la communauté Saint-Égidio. Un compte-rendu de Bernard Nyangui.
Réfléchissant sur le thème « L'audace de la paix, religion et culture en dialogue », les catholiques, protestants, musulmans et autres acteurs politiques ont voulu faire renaître une force de paix dans cette région déchirée par les divisions et guerres, dit la représentante de la communauté Saint-Égidio à Goma. Madame Aline Minani.
Beaucoup de forces de paix ont fait surface aujourd'hui parce que le message a été écouté par tous. C'est que nous sommes tous un peuple de Dieu. Nous avons un destin commun. Donc il y a besoin de travailler ensemble, catholiques, musulmans, protestants, pour arriver à la paix.
Pour le vice-gouverneur du Nord Kivu, le dialogue et la diplomatie sont les meilleures approches pour une paix durable, surtout dans le contexte actuel de la RDC. Le commissaire divisionnaire Romu Ekuka.
La première des choses, lorsque l'on veut la paix, c'est de parlementer, de discuter. En ce qui concerne le problème de la guerre en RDC, le chef de l'État et son gouvernement se démènent dans la diplomatie pour que tout revienne à l'ordre comme d'antan. Ce n'est que lorsque la diplomatie ne réussit pas que l'on est obligé d'aller à la guerre.
Dans les territoires de Beni, un ultimatum de 72 heures est lancé par l'administrateur du territoire aux agriculteurs, exploitants de bois et ceux des carrières minières opérant dans la forêt à l'évacuer. Cet appel fait suite au récent massacre survenu dans la commune rurale d'Oïcha, chef-lieu du territoire, et qui a coûté la vie à 27 civils. L'armée, qui prépare une opération de nettoyage dans cette zone, appelle la population à la libérer au plus tard demain lundi. Les propos du colonel Charles Euta Omeonga sont recueillis par Marc Marufimbo.
Je lance un appel à toute la population de Oïcha, Eringeti, Maimoya, Mamové, tout comme ceux qui se retrouvent dans la région de Mbao. Dès maintenant, il leur est demandé de vider ces lieux cités. Les exploitants de planches, les fabricants de braises et les agriculteurs qui sont dans la profondeur de la forêt, qu'ils vident rapidement car il y a une opération militaire de grande envergure qui sera lancée. La présence de la population en ces lieux sème confusion pour les forces armées. Ils doivent quitter sans hésiter. Nous avons donné l'ordre à l'armée de procéder aux opérations de grande envergure dans ces coins. Toute personne qui sera retrouvée dans la profondeur de la forêt sera considérée comme ennemie. Faut bien suivre cette instruction et sa communiquer. Quitter la forêt, quitter la brousse. Les forces armées entrent en opération. Ils n'épargneront personne. Toute personne qu'elles croiseront dans la forêt sera considérée comme ADF. À partir de ce vendredi jusqu'au mardi prochain, que personne n'entre dans la brousse car l'armée y fait son entrée. Que celui qui a des oreilles entende.
Parlons de ce malaise social au sein de l'établissement public Transco. Les agents et cadres de cette société demandent au gouvernement de payer leurs salaires et primes qui datent de plusieurs mois. Dans une conférence de presse vendredi dernier à Kinshasa, Nelson Mudiwamba, secrétaire exécutif de l'intersyndicale des Transco, appelle le gouvernement et le comité de gestion de son entreprise à se mettre autour d'une table afin de trouver des solutions aux problèmes qui rongent les travailleurs. Nelson Mudiwamba le dit à Paul Matendou.
Nous avons écrit au gouvernement plusieurs fois, mais le gouvernement ne sait pas nous répondre. Nous nous sommes dit peut-être que par cette voie de faire une déclaration que le gouvernement peut nous écouter. C'est vrai qu'il y a malaise maintenant que je vous parle au niveau de Transco. Il y a les salaires des agents et il y en a encore beaucoup plusieurs avantages. Il y a des primes, il y a beaucoup de choses qu'il faut en principe chercher à obtenir pour les agents. C'est pourquoi il faudrait que le gouvernement, le bon syndical et l'employeur de Transco, le comité de gestion, puissions nous rencontrer autour d'une même table. C'est un problème très 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 culminant. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement, si par cette voie la solution n'est pas là, il ne nous écoute pas, je pense que dans les 72 heures qui suivent, à dater de maintenant, il y aura une assemblée générale. Je pense que ce sera la meilleure des solutions pour que les agents puissent se prendre en charge.
En bref, le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Marc Ekila, et son collègue de finances, Nicolas Kazadi, viennent de signer conjointement un arrêté interministériel axé sur la tarification pour l'acquisition des nouveaux permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. Selon cet arrêté, la Société des droits congolais, spécialisée en imprimerie des valeurs autogistes, aura la charge de produire cette pièce à tous les transporteurs du pays. Ce même document renseigne le prix d'acquisition du nouveau permis de conduire, dont la clé de répartition des recettes se fera entre les trésors publics et la société Autojuste. Notamment, véhicule de 2 à 3 roues à 38,5 $, véhicule de 3,5 tonnes, 71,5 $, véhicule à plus de 3,5 tonnes à 99 $.
Actualité internationale.
Si elle doit quitter définitivement le pays le 31 décembre, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, maintient toujours, pour raison de sécurité, son départ accéléré de la ville de Kidal pour fin octobre, demain lundi 30 ou mardi 31. Mais souci, Les autorisations de vol pour ces avions qui doivent transporter le personnel sont soit refusées, soit données au compte-goutte, ce qui suscite des inquiétudes dans les rangs de la mission. À Madagascar, le collectif des 11 promet de durcir le mouvement. Les candidats d'opposition ont martelé que la contestation allait s'intensifier hier samedi devant des milliers de partisans réunis à Antananarivo. Pour empêcher que l'élection présidentielle du 16 novembre se tienne, ils ont invité les militants à prendre la très symbolique place du 13 mai.
L'invité.
L'invité de ce journal est le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri. Marc Carnassoro parle de l'amélioration de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri, grâce notamment aux opérations menées par les FARDC avec l'appui des forces de la MONUSCO, mais aussi aux différents dialogues communautaires et avec des leaders des groupes armés initiés par la MONUSCO pour accompagner le gouvernement provincial. Marc Carnassoro s'entretient avec Isaac Remoyopi.
C'est le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, bonjour.
Bonjour.
D'abord, quelle est la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la province de l'Ituri, parce qu'on semble constater quand même une certaine accalmie.
Beaucoup d'efforts ont été mis en œuvre au cours des derniers mois écoulés pour essayer de baisser les tensions, pour essayer donc d'amener les acteurs armés à adhérer au processus des DRCS. Parallèlement à cela, il y a eu aussi des opérations militaires qui ont été menées. Donc il y a une combinaison d'efforts et je crois que cela a un impact aujourd'hui sur cette situation que nous voyons en ce moment. Quoi qu'elle soit encore précaire, puisque la majorité de ces groupes-là gardent encore leurs armes, ils les dissimulent encore et donc à tout moment, ils pourraient donc encore faire recours à la violence.
Nous savons que presque tous les groupes armés locaux de l'Ituri ont signé des accords de cessation unilatérale des hostilités. Pendant ce temps, on est dans une situation presque de statico parce qu'ils n'ont pas encore déposé les armes, comme vous l'avez dit. Alors, qu'est-ce qui est fait pour accélérer ce processus?
Au niveau de l'approche non militaire, il faut dire que nous avons une stratégie qui s'articule autour de deux axes principaux. Le premier axe, c'est de travailler avec les communautés à la base, avec les leaders communautaires, pour identifier les vecteurs de tension et ensemble créer les conditions pour qu'ils puissent se parler, pour, si vous voulez, régler ces problèmes-là de manière pacifique. Dans ce sens, la MONUSCO a appuyé le gouvernement provincial et il y a eu une série de rencontres qui ont été matérialisées par des accords d'entente. Il y a eu dernièrement, au mois de juin, l'atelier qui a réuni les responsables des communautés Lessé et Nandé à Komanda et qui a renouvelé l'accord d'Ofai qui avait été aussi facilité par la MONUSCO en 2017 déjà. Il y a aussi eu des discussions qui ont eu lieu du côté des Alours et des Lindous pour essayer d'apaiser les tensions. Il y a eu aussi la facilitation des dialogues intracommunautaires, parce qu'à l'intérieur des communautés, on a aussi des pôles de tension. Des pôles de tension qui peuvent s'exacerber et dégénérer facilement. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'engagement à l'endroit des acteurs armés. C'est une démarche de persuasion pour leur expliquer que l'option qu'ils ont, c'est de rejoindre le programme de désarmement et de démobilisation communautaire mis en place par le gouvernement. Dans ce sens aussi, nous avons appuyé le gouvernement en place, le gouvernement provincial en place, et il y a eu des discussions, vous vous souviendrez des discussions de Harou. Il y a eu aussi les actes d'engagement qui ont été signés par les groupes armés principaux en Ituri, donc où ils se sont engagés à arrêter de s'en prendre aux populations civiles et à rejoindre le processus. Depuis le mois de juin 2022, nous avons autour de 22 initiatives de ce type qui ont été entreprises, donc à l'endroit des communautés d'une part et d'autre part à l'endroit des acteurs armés eux-mêmes.
Ça ne semblait pas porter des fruits parce qu'il y a même une feuille de route qui était sortie de cette dernière rencontre tenue à Aru, mais cette feuille de route n'est pas suivie jusque-là parce que ça devrait aboutir à la création des sites, des démobilisations, les désarmements ainsi de suite. Donc ce processus semble être un peu bloqué.
Je pense pas qu'on puisse dire que le processus est bloqué, puisqu'il vous vous souviendrez qu'au mois de mai cette année, nous étions à un pic de quasiment 170 personnes tuées par mois. Donc nous nous avions un pic, une moyenne que nous n'avions jamais atteint avant. Il vous souviendra aussi que le conflit était en train de déborder de Djougou. On avançait du côté de Mahagui. Le littoral était complètement désert aussi. On ne peut pas dire qu'il y a eu un statu quo, puisque quand même aujourd'hui, on voit qu'on a réussi à baisser l'intensité des activités des groupes armés. Aussi parce que de leur côté, les militaires ont fait un effort. Identifier les modes opératoires de ces criminels-là et puis anticiper sur leurs actions. Parallèlement à ça, il faut dire qu'on a renforcé les systèmes d'alerte précoce. Aujourd'hui, nous en avons quasiment une quarantaine sur l'ensemble des territoires de Djougou, une partie de Mahagui, une partie de Irumou, qui permettent en temps et en heure d'avoir l'alerte et de réagir à temps. Donc, quand on regarde les données qu'on a aujourd'hui, visiblement, la violence a diminué puisque le nombre de victimes a aussi diminué. On constate aussi que les routes sont ouvertes.
Monsieur le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, je vous remercie.
Je vous remercie.
C'était notre invité, le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, Marc Carnassoro, s'entretenait à Bounia avec Isaac Remoyopé. Fin de ce journal qui a été préparé par Alain Irung et mis en onde par Alain Goy. À leur nom, je vous dis merci de l'avoir écouté.